c'est le journal d'Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Un rapport sur la laïcité dans la fonction publique. Les fonctionnaires font état de difficultés liées à l'application de ce principe concret donc de laïcité, compte rendu dans un instant avec Ilan Malka. Condamnation aux Pays-Bas du député populiste Geert Wilders, jugé coupable de discrimination, un verdict qui ne devrait pas entamer sensiblement sa popularité à l'approche des élections législatives de mars, analyse avec Bruno Cadenne. La reconquête des quartiers d'Alep restant aux mains des rebelles pourrait occasionner de très nombreuses victimes dans la population civile. Les bombardements se poursuivent encore ce matin, on sera en ligne avec Omar Waman. Les députés sud-coréens votent la destitution de la présidente Park, conséquence d'un gigantesque scandale de corruption dont nous parlera Frédéric Ojardias. Et puis Paris et sa banlieue pourraient sortir de l'épisode de pollution intense entamé il y a maintenant 10 jours. Mais Air Paris reste prudent pour la semaine prochaine. On va faire le point à la fin de cette édition avec David Ravier, l'invité de la séquence interview, Nicolas Bay, secrétaire général du Front National, et dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
La traduction comme articulation des savoirs, traduire, est-ce un acte de résistance? On posera la question à la philosophe Barbara Cassin, qui vient de publier un éloge de la traduction chez Fayard et qui est notre invitée à partir de 12h55.
Et on commence par ce procès emblématique, sans doute, des ambivalences de l'économie dite du partage. Itch, c'est une application de transport entre particuliers qui a été fondée il y a 3 ans, application nocturne qui touche de 20h à 6h du matin, qui tourne, pardon, de 6h à 20h du matin et qui annonce 30 000 conducteurs occasionnels. Ces dirigeants donc comparaissent depuis hier pour complicité d'exercice illégal de la profession de taxi, pratique commerciale trompeuse, organisation illégale d'un système de mise en relation de clients avec des chauffeurs non professionnels. Près de 1500 parties civiles dans ce procès, essentiellement des taxis donc, qui se plaignent de concurrence déloyale. Le procès a donc débuté hier, il se termine aujourd'hui. Bonjour Violette Boldoir.
Bonjour.
Alors vous avez assisté évidemment à la première audience et on a constaté assez rapidement dans cette audience que la manière de nommer les choses était finalement au centre des débats.
Oui, pour Teddy Pellerin, l'un des deux prévenus, sur sa plateforme, il n'y a pas de chauffeur, mais des conducteurs. Il n'y a pas de clients, mais des passagers. Il n'y a pas de tarifs, mais des suggestions de participation aux frais du véhicule. Un langage auquel il tient, à tel point que lorsque l'accusation lui pose une question sur la tarification des courses, le prévenu fait mine de ne pas comprendre. Car chez Hitch, a-t-il martelé hier, les utilisateurs pratiqueraient le covoiturage. Alors, comment marche cette application mobile? Vous l'ouvrez, elle vous géolocalise. Là, vous entrez l'adresse à laquelle vous souhaitez vous rendre. Le prix que vous coûtera le trajet s'affiche ensuite sur l'écran. Et si un conducteur Hitch accepte la course, il vient vous chercher et vous emmène à bon port. Pour l'accusation, on est donc bien loin d'un service rendu entre particuliers. Il s'agit plutôt d'une flotte de chauffeurs sans licence qui se livrent illégalement à l'activité de taxi. Pour un tel délit, les cofondateurs de Hitch risquent 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende.
Alors comment est-ce qu'on pourrait faire la distinction entre économie du partage véritable et puis simple business, parfois exploitation?
Eh bien par le profit, puisque le principe de l'économie collaborative, c'est de partir de l'entraide entre les particuliers pour limiter les intermédiaires et ainsi avoir des services moins chers. On peut en tirer des revenus pour arrondir ses fins de mois, mais ils seront alors imposables, sauf pour le covoiturage. C'est l'une des exceptions exonérées d'impôts dans l'économie collaborative avec la vente occasionnelle d'objets d'occasion. Et toute la défense repose sur ce seul argument. Hitch n'est pas là pour faire du business. Ses conducteurs font du covoiturage, surtout en banlieue parisienne, là où les taxis n'iraient plus. Les gains des conducteurs seraient donc à la fois non imposables et plafonnés à 6 000 euros par an, sous le seuil légal de la TVA. Sauf que, d'après les témoignages de plusieurs chauffeurs Hitch, il est très facile de tricher pour faire du profit. Certains ont plusieurs comptes et quand ils ont atteint ce plafond de 6 000 euros, ils utilisent la voiture d'un proche, par exemple, puis encaissent les gains sur 2 comptes bancaires différents. Dans la pratique, ces conducteurs admettent que Hitch est moins pour eux une manière de rendre service à d'autres particuliers qu'un moyen d'encaisser de petites sommes au noir, souvent pour compléter leurs revenus.
Merci beaucoup Violette Voldoir et nous saluons l'invité à la dernière partie de la grande table. Barbara Cassin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, mais aussi philologue. On va vous entendre tout à l'heure pour votre livre « Éloge de la traduction ». J'avais pensé peut-être que ça vous inspirerait quelque chose, ces appellations, cette manière de nommer les choses. On avait connu le passage, par exemple, d'usager à client. Et puis voilà maintenant que l'économie du partage nous fait repasser de client à passagers. On a aussi entendu ce que nous disait Violette tout à l'heure, pas de tarifs, mais des suggestions de participation. Est-ce que cette novlangue un peu à rebours retombe dans le business et comment ça fonctionne sur le plan terminologique ?
Enfin, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les mots ont l'air de faire les choses, en l'occurrence. C'est comme ça que ça se fabrique. Et au fond, ce dont il s'agit, c'est des éléments de langage partagés. Je trouve ça particulièrement terrifiant, les éléments de langage. C'est-à-dire, c'est terrifiant politiquement, c'est terrifiant dans la vie quotidienne. Et tout d'un coup, on se retrouve en pleine économie du partage, mais partage juste...
Oui, même ce mot de partage, finalement,
devient... De fricot noir, on va dire. Bon, donc, voilà, je trouve... Ma première remarque, c'est les éléments de langage. Quelle horreur! Et c'est partout. Et deuxièmement, regardez comme les mots font les choses.
Et souvent, finalement, un mot vise à désigner le contraire. Finalement, partage, en l'occurrence là, pouvant parfois viser exploitation, fraude, etc.
Oui. Oui. Qu'est-ce que
c'est ça le principe, finalement, c'est de dire le contraire de ce qu'on veut dire.
Oui, enfin, de le dire comme on a envie de le dire, de manière à ce que ça devienne autrement. C'est ce que disait, au fond, par exemple, Desmond Tutu disait « On appelle terroristes les personnes à tuer. » Ben, c'est tout.
Violette Voldoir, une petite question,
oui,
une réponse rapide.
Est-ce que, on voit les clients sont remplacés par les passagers, est-ce que c'est pas une façon d'évacuer la question des droits et des devoirs, puisque un simple passager, il n'a pas les mêmes droits qu'un client qui peut exiger un résultat, par exemple.
Oui, mais on a le droit de préférer ne pas avoir de droits et de payer moins cher. Et parfois, on est obligé de faire ça. Donc, la situation est une situation d'ensemble extrêmement compliquée.
Barbara Cassin, merci beaucoup. On vous retrouve dans la dernière partie de la Grande Table pour parler de votre livre, donc Éloge de la traduction, Compliquer l'universel, publié chez Fayard. Un mot de politique française encore, Manuel Valls affine ce matin son idée de revenu universel. Il évoque la création d'un minimum décent, qu'il évalue entre 800 et 850 euros mensuels. Il s'agirait d'une allocation attribuée à tous les adultes de plus de 18 ans résidant sur le territoire national depuis au moins 4 ans, et bien sûr sous seule condition de ressources. On passe à ce rapport sur la laïcité dans la fonction publique, selon la Commission qui est présidée par l'ancien ministre de la fonction publique, Émile Zuccarelli. Le nombre de situations problématiques qui sont liées à l'application de ce principe sont assez faibles dans la plupart des structures publiques. Toutefois, les agents font état, dans une grande majorité, de difficultés qui sont liées précisément à l'application de ce principe de laïcité.
Oui, la ministre de la fonction publique, Annick Girardin, prend quelques exemples. C'est à la piscine la demande d'un couloir spécifique pour une femme. C'est à l'hôpital un enfant qui souhaite garder une kippa pendant une opération, ou encore un agent public qui porte deux énormes boucles d'oreilles en forme de croix. Alors face à ces situations, nous dit le rapport, les agents ne savent pas réagir, ils craignent notamment de ne pas être soutenus par leur hiérarchie, qui pourrait les accuser bien sûr de discrimination. 20 mesures ont donc été présentées ce matin, la ministre souhaite en mettre plusieurs en place immédiatement. Il y aura donc désormais une formation obligatoire à la laïcité lors de l'entrée dans la fonction publique, mais aussi après une mobilité ou une promotion. Dans chaque administration, un seul référent laïcité sera identifié. C'est vers lui que les agents se tourneront désormais pour avoir tout de suite une réponse claire en cas de problème, au lieu d'avoir, comme c'est souvent le cas, plusieurs contre-ordres. Un portail internet va également être créé pour recenser tous les nouveaux textes en la matière. Et puis, il y aura aussi un travail d'évaluation sur le terrain avec un baromètre RH qui va quantifier et analyser les difficultés. La Fédération hospitalière de France a d'ailleurs déjà entrepris la démarche.
Merci beaucoup, Ilan Malka. L'actualité à l'étranger, on commence par cette condamnation aux Pays-Bas du député populiste Geert Wilders, qui était jugé coupable de discrimination, relaxé toutefois d'incitation à la haine, et poursuivi donc Geert Wilders pour avoir déclaré en 2014 qu'il fallait moins de Marocains aux Pays-Bas, et le dirigeant du Parti pour la Liberté annonce son intention de faire appel. Bruno Cadenne, c'est un verdict qui ne devrait sans doute pas entamer sa popularité. Nous sommes bientôt à l'approche donc de ces élections législatives aux Pays-Bas. Au mois de mars.
Le leader du Parti pour la Liberté, le PVV, se sort sans trop de dommages de son procès, en particulier en évitant la condamnation pour incitation à la haine. Lors des dernières municipales à La Haye, dans un meeting, il avait demandé à ses supporters s'ils souhaitaient voir plus ou moins de Marocains dans leur ville. Comme la foule avait répondu moins, Geert Wilders avait conclu « nous allons nous en charger ». Sauf que cette condamnation pour discrimination gêne cependant le chef du PVV, car cette peine devrait être inscrite sur son casier judiciaire, ce qui serait une première. C'est pour cela qu'il fait appel. Ce procès intervient quelques mois avant les législatives prévues aux Pays-Bas le 15 mars prochain et le PVV se heurte à deux problèmes. Tout d'abord, même si le parti de Geert Wilders reste aujourd'hui aujourd'hui en tête des sondages. En cette fin de procès, les intentions de vote pour son parti ont baissé, passant en quelques jours dans les projections de 35 à 29 sièges, selon un dernier sondage Ipsos paru hier. Ensuite, le PVV n'a aucun allié potentiel pour gouverner, car le système néerlandais, basé sur la proportionnelle, nécessite des coalitions. Le PVV est talonné dans les sondages par le Parti populaire libéral-démocrate du Premier ministre Mark Rutte, juste derrière à 2 sièges. Et si l'on additionne toujours, d'après ce dernier sondage d'hier, les sièges potentiels des libéraux-démocrates, des chrétiens-démocrates et des libéraux du D66, on arrive à 62 sièges, sans oublier les 34 sièges de toute la gauche. Cependant, la campagne électorale n'a pas vraiment débuté, puisque les élections sont dans 4 mois. Mais le PVV pourrait se trouver dans la situation du tout le monde contre lui et donc dans l'impossibilité de gouverner.
Merci beaucoup Bruno Cadenne. Nous saluons l'invité de la séquence interview, Nicolas Bay. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc secrétaire général du Front National. Bah, vous êtes dans la même situation que M. Wilders, c'est-à-dire que pas beaucoup d'alliés pour le deuxième tour et sans doute le tous contre vous qui pourrait vous empêcher précisément, qui pourrait être ce fameux plafond de verre qui vous empêche d'arriver à la majorité.
Bah, je crois que ce qui caractérise le PVV comme le Front National, c'est en effet d'avoir face à eux un système coalisé. Ce qui nous impose en effet d'obtenir une majorité absolue dans le pays. C'est pas encore le cas pour le PVV, ça n'est pas encore le cas pour le Front National, mais on s'en approche. Et scrutin après scrutin, on se rapproche du moment où on aura une majorité absolue dans le pays. Je crois que aujourd'hui, le vrai clivage n'est plus entre la droite et la gauche. Je crois que beaucoup de nos compatriotes se rendent compte que finalement, droite et gauche mènent non seulement la même politique quand ils sont aux affaires, mais qu'ils se coalisent ensuite pour garder le pouvoir. Donc je crois que ça... Finalement, tout ça contribue à clarifier le débat politique.
Hollande, Autriche, tous ces partis d'extrême droite, ce sont des partis frères, si je puis dire.
Ce ne sont pas des partis d'extrême droite, ce sont des mouvements patriotes. Je crois que c'est important de le souligner. En Autriche, le FPO a failli gagner l'élection présidentielle. L'élection avait été annulée en raison de graves irrégularités commises, en l'occurrence probablement par nos adversaires là-bas. Les élections ont eu lieu à nouveau après des délais qui ont été rallongés. Ouais. Tout ça, mais ça s'apparente.
La question que je voulais savoir, ma question, c'était parti frère. C'est-à-dire, vous êtes dans la même mouvance. Vous considérez comme dans le même groupe.
Oui, il peut y avoir des différences qui sont liées à l'histoire de chaque pays, à l'histoire de chaque mouvement. Mais on peut dire en effet qu'on partage la même vision d'une Europe fondée sur des nations souveraines, sur des peuples libres, une Europe qui défend l'identité des peuples qui la compose, une Europe qui refuse notamment les grandes orientations actuelles de l'Union européenne, c'est-à-dire l'immigration massive, c'est-à-dire la dérégulation totale et l'abaissement des frontières.
Merci. Nicolas Bay, on vous retrouve donc dans la séquence interview dans quelques minutes. L'armée syrienne poursuit sa progression dans les quartiers d'Alep et la reprise de la totalité de la ville semble désormais une question de jours. Les quartiers qui restent aux mains des rebelles sont en fait très peuplés maintenant et leur conquête pourrait occasionner de très nombreuses victimes dans la population civile. Les Russes avaient plus ou moins annoncé, en tout cas mis en activité une trêve hier soir qui n'est pas du tout respectée ce matin. Selon l'ONU, les rebelles empêchent maintenant les civils, donc de leur zone, de quitter ces quartiers qu'ils occupent. On est en ligne avec Omar Waman. Bonjour Omar.
Bonjour Antoine.
Alors on va voir avec vous quelle est la situation. On écoute d'abord ce témoignage exceptionnel d'un habitant que vous avez pu recueillir, un habitant de ces quartiers d'Alep que vous avez joint, c'était hier soir par Skype.
La situation est catastrophique, c'est de pire en pire, c'est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Les rebelles contrôlent encore 7 ou 8 quartiers. Mais si les gens fuient en direction des quartiers ouest, ils peuvent être la cible des tireurs embusqués, car il y a des combats violents en permanence sur les lignes de front. Je suis sorti dehors aujourd'hui et j'ai vu beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de sans-abri. Certains cherchaient un endroit où se réfugier, d'autres étaient à la recherche de quoi manger, de la nourriture, du pain. Ils avaient l'air très fatigués car ils avaient beaucoup marché avant d'arriver dans notre quartier. Ils étaient frigorifiés. J'ai vu beaucoup d'enfants, ils mendiaient, ils étaient seuls. Je ne sais pas si leurs parents sont vivants ou s'ils sont morts.
Retour vers vous, Omar Waman. L'évolution de la situation militaire, en fait, ne fait guère de doute depuis plusieurs jours maintenant. Le régime syrien, qui est appuyé par ce qu'on appelle l'arc chiite et par les Russes, devrait reprendre assez rapidement maintenant complètement le contrôle de cette ville. Apparemment, Moscou cherche quand même à éviter un massacre de civils dans ces derniers quartiers rebelles.
Oui, cet habitant des quartiers est d'Alep, joint de nouveau ce matin, indique qu'il y a eu dans la nuit de violents tirs d'artillerie, que les combats n'ont pas vraiment cessé, qu'il y a des dizaines de milliers de civils pris au piège dans cette poche rebelle du sud d'Alep. Il parle de 150 à 200 000 habitants. Il explique également qu'il n'y a plus vraiment de zone tampon entre ces quartiers densément peuplés et la ligne de front. Et c'est la raison pour laquelle Moscou a décidé hier l'arrêt des bombardements qui semblent avoir repris depuis. Moscou tente effectivement d'éviter un massacre et un bilan en pertes humaines qui ne se compterait plus en dizaines par jour, ce qui est le cas depuis le début de l'offensive le 15 novembre dernier, mais en centaines. Mais cette annonce de la Russie est surtout un désaveu pour Bachar el-Assad, le président syrien. Il s'exprimait le même jour dans les colonnes du quotidien syrien Al-Watan, journal connu pour sa proximité avec le régime de Damas. Interrogé sur la trêve humanitaire demandée par les rebelles, il déclare ne pas vouloir en entendre parler. Donc ces déclarations de son allié russe prouvent encore une fois que Bachar el-Assad n'est pas maître des opérations militaires, qu'il est contraint de suivre les ordres de Moscou, à qui son régime doit sa survie. La Russie décide, et sur le terrain, ce sont les milices chiites qui sont en première ligne, libanaises avec le Hezbollah, irakiennes, iraniennes, afghanes ou pakistanaises, une alliance chiite à l'assaut de ces rebelles qui, eux, sont en très grande majorité syriens.
Merci beaucoup Omar Waman, donc vous étiez avec nous en direct de Beyrouth. Les députés sud-coréens ont voté ce matin la destitution de la présidente Park, conséquence d'un gigantesque scandale de corruption qui a précipité dans la rue des millions de personnes, paralysé notamment le gouvernement pendant plusieurs semaines. Donc adoption par l'Assemblée nationale de cette motion de destitution qui en fait transfère l'autorité de Madame Park au Premier ministre. On est en ligne avec Frédéric Ojardias, bonjour.
Bonjour.
La présidente s'est exprimée ce matin à la télévision et elle affirme être désolée d'avoir créé, dit-elle, ce chaos national par sa négligence.
Oui, elle était visiblement très abattue, pas gênée. Elle a déclaré qu'elle acceptait la voix des citoyens à peine une heure après la motion de destitution votée par le Parlement. Elle a une nouvelle fois, c'était les quatrièmes, présenté ses excuses. Et puis elle a appelé ses ministres à empêcher toute vacance de pouvoir et à rester vigilant en matière d'économie et de sécurité nationale, elle parlait de la Corée du Nord, mais elle n'a pas présenté sa démission comme l'exigent des dirigeants de l'opposition, notamment parce qu'une démission provoquerait une nouvelle élection d'ici 60 jours et que son parti n'est pas du tout prêt, il serait sûr de la perdre. La présidente conserve donc son titre, vous l'avez dit, mais elle est immédiatement suspendue de toutes les fonctions officielles. C'est son premier ministre, Hwang Kyo-han, 59 ans, un ancien procureur très conservateur, qui assume désormais le pouvoir exécutif. Il devient notamment le commandant en chef de l'armée. C'est à présent à la Cour constitutionnelle de valider cette destitution. Elle a jusqu'à 6 mois pour le faire. Et en cas de validation, une nouvelle élection sera organisée d'ici 60 jours. Mais il est peu probable que la Cour entretienne le suspense pendant 6 mois. Elle se prononcera encore plus tôt, une fois que seront connues les conclusions de la commission d'enquête spéciale, qui doit faire toute la lumière sur les nombreuses accusations qui visent Park Geun-hye.
Merci Frédéric Ojardias, vous étiez en direct de Séoul. Un petit mot de la pollution, peut-être la fin de ce pic de pollution que nous connaissons depuis 10 jours maintenant à Paris et dans sa banlieue en tout cas, puis aussi d'ailleurs dans la vallée du Rhône notamment. David Ravier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors on fait un petit point, d'abord amélioration provisoire en tout cas qui est prévue.
Oui, pour Air Paris, le pic de pollution en région parisienne pourrait se dissiper dès ce week-end. La concentration de particules fines dans l'air s'est déjà améliorée aujourd'hui. On est passé en dessous du seuil d'alerte de 80 microgrammes. Ce week-end, on pourrait descendre au-dessous du seuil d'information, qui est lui à 50 microgrammes. Tout ça grâce à des conditions météo qui s'améliorent et la présence de vent qui va permettre de déplacer les nuages de pollution. Mais vous le disiez, Air Paris reste toutefois prudent pour la semaine prochaine. La qualité de l'air pourrait à nouveau se dégrader avec la reprise du travail.
Alors la circulation alternée a été reconduite. Bilan mitigé quand même de cette circulation.
Si le premier jour d'alternance a été respecté dans l'ensemble, les routes franciliennes ont connu quelques records d'embouteillage juste après. La faute au conducteur avec des plaques impaires qui n'aura pas dû prendre le volant pour se déplacer, mais aussi à cause des transports en commun qui n'ont pas fonctionné correctement ces derniers jours. Conséquence, le trafic était beaucoup plus dense, à tel point qu'hier matin, le site de la direction des routes d'Île-de-France a recensé un pic de 415 km de bouchons dans la région, contre 300 km habituellement.
Effectivement, c'est pas une grande réussite. Qu'est-ce que le gouvernement pourrait annoncer demain matin ?
Le gouvernement, en fait, devrait annoncer des mesures pour l'avenir. Le ministre de l'écologie, Ségolène Royal, détaillera demain, lors du Conseil des ministres exceptionnel, des nouvelles mesures pour lutter contre la pollution. Elle souhaite rendre obligatoire dans les zones régulièrement touchés par la pollution, l'instauration de vignettes de couleur pour les voitures en fonction de leur rejet de CO2 dans l'atmosphère. Ces vignettes pourraient donc prendre toute leur importance lors des prochains épisodes de pollution, puisque seuls les véhicules les plus propres auraient le droit de circuler. Ségolène Royal veut également étendre le bonus écologique sur l'achat des véhicules électriques aux véhicules utilitaires et augmenter le crédit d'impôt pour les particuliers qui souhaiteraient installer chez eux une borne de recharge électrique.
Merci David Ravier. Il est 1h10, c'est donc la séquence interview avec Nicolas Bay, secrétaire général du Front National. Question de Christine Monclar.
Bonjour Nicolas Bay. Justement, bonjour. Je vais rebondir sur le papier de David. Est-ce que vous êtes, quand vous arrivez au pouvoir, il y a un pic de pollution, qu'est-ce que vous faites vous?
Je crois en tout cas qu'il faut cesser de culpabiliser les automobilistes parce qu'on assiste
donc pas
aujourd'hui.
De circulation alternée.
Non, je crois qu'il faut pas à la fois paralyser l'activité économique, ce qui est l'une des conséquences de ces dispositifs, et puis cesser de culpabiliser les automobilistes qui aujourd'hui dans notre pays sont
alors
de véritables vaches à lait.
Bah,
je crois qu'il faut essayer de prendre des mesures pour freiner la pollution, notamment la pollution qui provient des industries, parce que c'est évidemment la pollution la plus importante, Madame Hidalgo essaie de faire croire que l'essentiel de la pollution viendrait des voitures. Ça peut l'être ponctuellement, mais ça n'est pas le principal enjeu. Donc je crois qu'il faut cesser d'utiliser les automobilistes français à la fois par les radars, par les verbalisations incessantes pour tout et n'importe quoi, et par la lutte contre la pollution pour des véritables vaches à lait dans notre
pays. Pas de punition pour les automobilistes. Alors, on va parler immigration. Vous étiez le conseiller politique sur les questions d'immigration de Marine Le Pen en 2012. Apparemment, dans le programme de 2017, il y aura une nouvelle mesure cette année. La fin de la scolarisation des enfants sans papier, c'est ce qu'elle a annoncé cette semaine. Vous soutenez? Ou alors, c'est comme l'a dit un de vos collègues à l'agence France Presse, une bêtise?
Non, je ne sais pas qui est ce collègue, il doit être totalement anonyme et peut-être même qu'il n'existe pas. Évidemment que je soutiens cette mesure qui est une mesure de bon sens. Quel est le problème? Aujourd'hui, on a une immigration clandestine qui vient se déverser massivement en France et dans d'autres pays d'Europe aussi d'ailleurs.
Massivement, du coup, vous avez...
Oui, mais massivement. Bah, on sait que ça porte sur des dizaines de milliers. On en a eu derrière encore la démonstration avec les politiques de remigration mises en œuvre par l'Union européenne, qui consiste à reloger gratuitement aux frais du contribuable des immigrés clandestins, alors que dans le même temps, on a des Français qui vivent dans leur voiture et des SDF qui n'ont pas de logement.
Qui réclament cette mesure? Ce sont les enseignants, les parents d'élèves?
Non, je crois d'abord que
Marine Le Pen a fait un tour de France pour essayer de sonder la demande du peuple, justement.
Bah, je crois que c'est surtout, ça correspond à un objectif de justice sociale. Il y a un certain nombre de candidats, ça vous a pas échappé, qui nous explique qu'on n'a plus les moyens d'assurer le minimum de protection sociale pour les Français dans ces conditions. Évidemment, il est urgent de rétablir un minimum de justice sociale. Et en l'occurrence...
Mais est-ce que c'est pas juste quand même qu'un enfant soit scolarisé?
Non, mais c'est pas la question. Un immigré clandestin, il n'a pas vocation à rester sur le territoire national.
Mais
il a vocation à être expulsé.
Un enfant a des droits particuliers.
Non, mais portons le débat sur le fond. D'abord, l'immigration clandestine, elle ne doit pas être répartie en permanence en France et bénéficiaire de services publics et d'aides sociales. Elle doit être expulsée. Aujourd'hui, on a des dispositifs comme l'aide médicale d'État qui coûte 1 milliard d'euros par an aux contribuables français. On a des dispositifs comme l'école gratuite qui bénéficie aux immigrés clandestins. C'est ça, c'est cette situation-là qui n'est pas acceptable. L'expulsion immédiate de toutes les personnes en situation illégale sur notre territoire règle l'essentiel du problème. Quant aux étrangers en situation légale, eh bien cela, je crois qu'il serait bien qu'il y ait un délai de carence avant qu'ils bénéficient des aides sociales et des services publics gratuits. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux...
C'est déjà le cas. Il faut
non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai,
critères.
Par exemple, pour l'école. Ils arrivent en France, ils n'ont jamais cotisé en France, ils n'ont jamais travaillé en France, ils n'ont jamais payé d'impôts en France et ils bénéficient d'aides sociales, d'avantages sociaux très importants et de services publics gratuits. Mais je crois qu'il faut mettre fin aussi à cette dérive, c'est-à-dire qu'il y a un délai de carence et une fois qu'ils ont réellement participé de l'effort national, ils auront droit, ils pourront bénéficier des mécanismes de solidarité nationale.
Donc on revient au slogan d'avant, la préférence nationale. Est-ce que
ça vous permet... Mais ce n'est pas le slogan d'avant. La priorité nationale, c'est en effet...
C'est quoi la différence avec la préférence nationale?
Mais la priorité nationale, ça consiste simplement à ce que les Français aient un certain nombre de droits supplémentaires liés au fait qu'ils sont des citoyens dans notre pays. Nous entendons appliquer la priorité nationale pour le logement, pour les aides sociales, pour l'emploi et également pour un certain nombre d'accès aux services publics. Et j'ajoute d'ailleurs que la priorité nationale, c'est pas l'exclusivité. C'est simplement que les Français soient les premiers servis dans leur pays, ce qui est une simple mesure de bon sens appliquée d'ailleurs dans énormément de pays dans le monde.
Et ça, de le redire comme ça, c'est très clairement 15 jours après la primaire de la droite, ça vous permet de vous distinguer de François Fillon. C'est un adversaire de quel type pour le premier tour en tout cas?
Non, c'est simplement un discours assez constant, il faut bien le dire, au Front National.
Oui, mais ça change de la France apaisée de la pré-campagne.
Pas du tout, parce que la France apaisée, c'est un objectif, et l'objectif, c'est justement de rétablir les Français dans leurs droits fondamentaux et qu'ils arrêtent d'être traités comme des citoyens de seconde zone, qu'ils arrêtent d'être traités comme des parias. Non, mais c'est simplement que les Français ne soient pas moins bien traités que les clandestins. Quand les Français ont plus les moyens de se soigner convenablement les dents ou les yeux, et que dans le même temps, l'aide médicale d'État permet à n'importe quel clandestin d'être soigné gratuitement en France, ça pose un problème dramatique d'injustice. Et c'est ça qui est en cause.
À propos de François Fillon, Marine Le Pen a dit que c'était un bon candidat. On a l'impression, parce que c'était le candidat du MEDEF, donc vous allez être le candidat de gauche,
non,
Front National.
Non, nous sommes sortis de ce vieux clivage droite-gauche. En revanche, ce que nous voyons, c'est que la politique que mettra en œuvre François Fillon, elle laisserait de côté 95% des Français. Et il est évident que c'est un très bon candidat pour nous, parce qu'il cumule les inconvénients de Juppé et de Sarkozy, leur bilan, le manque d'énergie d'Alain Juppé, sans forcément cumuler leurs atouts. On voit bien qu'il est étriqué sociologiquement, et sa force lors de la primaire de la droite peut être sa grande faiblesse de la présidentielle.
Nicolas Bay, merci. Merci Christine Monclat. Vous êtes donc secrétaire général du Front National. Un temps aujourd'hui sans changement par rapport à hier, des températures de 6 à 12 du nord au nord-est et à la région Rhône-Alpes, 12 à 15 ailleurs, mais jusqu'à 16 et à 18 degrés dans le midi. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. N'oubliez pas à 17h le magazine de la rédaction en partenariat avec Amnesty. Des signatures qui sauvent des vies, des reportages en Turquie, en Égypte et en Russie réalisés par Annie Bro. Ce magazine présenté par Anne Fauquemberg avec Nabila Hamel. Le prochain journal est à 18h avec Stanislas Vazak.